Je suis sorti pour faire une distribution. J'avais des nouveaux testaments. Et je le mettais dans la boîte aux lettres. Alors j'arrive à une boîte aux lettres, j'étais pour le mettre, et il y a un monsieur qui sort. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, c'est le Nouveau Testament qui nous parle du message des dieux pour les humanités, en nous montrant le salut en Jésus-Christ. Je ne crois pas au Nouveau Testament. Je dis, pourquoi vous ne croyez pas? Parce que je suis juif. Je suis juif, je suis israélite, donc je ne crois pas dans le Nouveau Testament. Alors, il a commencé à dire, mais expliquez-moi dans l'Ancien Testament. Alors, je crois que le problème que beaucoup de chrétiens aussi, imaginez-vous de vous trouver devant un cas pareil. Est-ce que vous êtes prêt à lui montrer le salut en Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Marc de Pau, j'étais prêt. Mais je me suis posé la question, mais est-ce que, en tant que chrétien, si nous rencontrons un juif, et s'il te dit, je ne crois pas dans le Nouveau Testament, je crois l'Ancien Testament, est-ce que nous sommes capables de pouvoir lui parler du salut que Dieu il accomplit en Jésus-Christ? C'est ça le vrai problème. Paul nous dit, soyez prêts. Vous savez, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait que l'Ancien. Bien sûr, cet homme-là, j'ai commencé à lui montrer à travers les Écritures que l'Ancien Testament, il parle de Jésus. D'ailleurs, j'ai commencé en lui disant, par exemple, dans Zacharie 9:9, Zacharie, il dit au peuple d'Israël, « Voici ton roi. » Il dit, « Voici ton roi. » Et dans l'Évangile, le Nouveau Testament, on a l'Évangile de Matthieu, qu'il écrit aux Juifs, et il leur dit, « Voici votre roi. Voici votre Messie. » Dans Matthieu. Dans Ésaïe 42, il nous est dit, « Voici mon serviteur », il dit. Ésaïe, il dit, « Voici mon serviteur ». Dans le Nouveau Testament, hein, il nous est dit, dans Marc, il dit, « Voici le serviteur parfait ». Ces serviteurs qui, au plus petit commandement de Dieu, il dit, « Aussitôt ». Et il nous est dit aussi, dans les psaumes, hein, qui nous est dit que ce verset qu'on connaît tous, hein, David, il dit, voici l'homme. Dans le Nouveau Testament, c'est l'évangile de Luc, qui montre l'homme parfait. D'ailleurs, Pilate, lorsqu'il a présenté Jésus au peuple d'Israël, aux Juifs dans la place, et il a dit, voici l'homme. Il a cru montrer Jésus dans l'état où il était, habillé de rouge, avec une couronne d'épines, avec un roseau dans la main, et il a dit, voici l'homme. Sans le savoir, Pilate, il présentait le vrai et l'unique homme. Et ensuite, il nous est dit, dans Ésaïe 35, 4, il nous est dit, voici votre Dieu. Et l'évangile de Jean, il nous parle exactement de ça, il nous présente Jésus-Christ en étant la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Cet homme-là, il m'a dit encore une fois, il m'a dit, mais d'où est-ce que vous sortez toutes ces choses-là? Comment est-ce que vous connaissez ces choses-là? On le connaît ces choses-là parce qu'on a la parole de Dieu. Parce qu'on a la parole de Dieu. Et nous devons être à leur parler. Bien sûr, hein, beaucoup parmi les chrétiens, lorsqu'on va témoigner, lorsqu'on va annoncer, on prend le Nouveau Testament et paf, et on parle de Jésus. Moi, je préfère l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu nous montre son plan. Et aujourd'hui, on va voir que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a préparé l'Évangile. Il a parlé de l'Évangile. Vous savez combien il y a d'évangélistes? Mais il y en a 4. Est-ce que vous les connaissez? Non, vous ne les connaissez pas. Oui. Vous êtes timide, hein? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a un sixième, que c'est Esaïe. Il est appelé le cinquième évangéliste. Mais moi, à cet homme-là, je lui ai parlé d'un sixième évangéliste. Pour lui montrer qu'il a parlé du salut, qu'il a parlé de Jésus-Christ. Et je lui ai présenté l'évangile de Moïse. Et pour cela, nous allons le lire. Et dans ce verset, Dieu il nous donne 7 promesses de ce qu'il va accomplir. Pas seulement dans la vie du peuple juif, mais dans la vie de chacun de nous. Car le peuple juif dans l'Ancien Testament, il est là pour nous servir d'exemple. Tout ce que Dieu il a fait pour le peuple juif, il est prêt à le faire pour nous. Et de la même façon dont il est intervenu avec le peuple juif, il intervient envers nous. Voilà pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode, chapitre 6. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à le laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel ». Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Voilà, le Seigneur dit à Moïse, ici, « Tu verras maintenant ce que je ferai. » Pourquoi il a dit ça? Oui, parce que le temps de délivrance était arrivé. Le temps d'intervenir à travers le peuple d'Israël, c'était arrivé. Savez-vous que Dieu, il a un temps pour chacun de nous? On a beau prier, « Seigneur, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu. Le peuple d'Israël, il a crié, il a supplié le Seigneur, « Interviens, viens, envoie-nous un libérateur, délivre-nous. » Voilà pourquoi il intervient, il a dit, « Tu verras ce que je vais faire, ce que je ferai. » C'est le temps de la délivrance, c'est le temps de prêcher le salut de Dieu. Voilà pourquoi cet homme, il savait qu'ils étaient son peuple, Israël, il est demeuré esclave en Égypte. Et je le dis, voilà ce que Dieu il a décidé de faire. Et ces choses-là, il l'a accompli aujourd'hui à travers et par Jésus-Christ, à travers 7 promesses. Au verset 6, il nous est dit, « Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Ici, il parle aux esclaves juifs. Il dit, « C'est terminé, je vais vous délivrer, je vais vous donner l'affranchissement de tous les travaux qui vous chargent les Égyptiens. » Les Égyptiens, vous savez, l'Égypte, c'est le monde. Le monde, il nous tient en esclaves. Le monde, il remplit notre vie de souffrances. Mais Dieu, il dit, je vais intervenir et je vais vous affranchir. Pour affranchir, pourquoi faire? Pour nous donner le repos. Parce que le peuple était esclave. Donc Dieu, il a dit, je vais intervenir, je vous donne l'affranchissement et vous aurez le repos. Vous savez, dans la Bible, il y a trois repos. Il y a le repos de l'âme. C'est celle que Dieu donne. C'est la paix avec Dieu. C'est la paix de Dieu. C'est l'âme qui a besoin de ce repos. Et Dieu, il dit, je vais vous affranchir. Je vais vous donner le repos de l'âme. Deuxième repos de la Bible, elle parle, c'est le repos des œuvres. On a travaillé ici-bas. Mais Dieu, il nous dit, ton travail, à ton travail, il va suivre le repos. Tu vas te reposer. Je vais préparer la place. On l'a vu ce matin. Ne vous inquiétez pas. Je m'en vais et je vais vous préparer une place. Et vous serez éternellement avec. Ça, c'est le repos des œuvres. Terminez le travail. Nous sommes ici pour travailler pour le Seigneur, mais le Seigneur, il va nous donner le repos de ces œuvres-là. Arrivera un jour où nous n'aurons plus à répandre la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle, il aura déjà été prêchée. Et Dieu, il nous donnera le repos des œuvres. Et troisième repos, c'est le repos éternel. C'est le repos que nous vivrons lorsque nous serons avec le Seigneur. Plus de larmes, plus de souffrances, plus rien qui peut accabler notre vie, mais nous serons devant notre Seigneur et notre Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, « Je vous affranchirai de tous ceux dont il vous charge les Égyptiens. » Aujourd'hui, nous sommes esclaves de ce que le monde il nous donne. Nous nous établissons bien vite, même en étant chrétiens. Et résultat, c'est la fatigue. Mais le Seigneur, il dit, je vais vous affranchir. D'ailleurs, le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a dit quoi? Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Pourquoi on est fatigué? Parce qu'on est asservi. Mais le Seigneur, il dit, je vais venir vous donner la délivrance. Et je vous donnerai du repos. Voilà ce que le Seigneur, il promet. Oui, pour avoir ce repos, il faut se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes sous l'esclavage, sous cet affranchissement, cet affranchissement, Dieu, il vous promet le repos. Il a dit, tu verras ce que je veux faire. Et je crois que chacun de nous, on est passé par cela. À un certain moment, Dieu, il nous a parlé. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes tournés vers lui. Et c'est là, lorsque nous avons reconnu notre péché, c'est là qu'il nous a donné le repos. Lorsqu'il nous arrive quelque chose de fâcheux, qu'est-ce que c'est que nous disons? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'on a le repos dans notre cœur. Vous vous rappelez lorsque le Seigneur il était sur le lac, une tempête il est arrivée, il dormait. Les disciples, ils ont vu cette tempête, il a dit « Seigneur, sauve-nous !» Lui, il dormait. Pourquoi est-ce qu'il pouvait dormir malgré tout ce qui se passe autour? Parce qu'il avait la paix de Dieu dans son cœur. Nous, c'est exactement pareil. Il peut arriver quoi que ce soit. Nous serons avec lui au paradis. C'est ça l'assurance que Dieu nous donne. Vous verrez ce que j'ai fait. Et Dieu, il est intervenu et il a affranchi le peuple de Dieu. Ils étaient sous l'esclavage, sous des travaux, et il leur a donné la liberté. Il leur a donné le repos. Je dis, c'est ça que le Seigneur, il veut faire avec vous. Et il accomplit cela par et à travers Jésus-Christ qui nous parle le Nouveau Testament. La deuxième promesse qu'il nous est dit, il nous est dit, je vous délivrerai de leur servitude. Nous sommes sous l'esclavage et nous y restons. Mais le Seigneur, il dit, je vais intervenir et je vais vous délivrer. Vous ne resterez pas toujours esclaves. Voilà la promesse que Dieu a faite. Je lui dis à ce monsieur, est-ce que vous êtes esclave? Il a dit, non, non, Dieu, l'Éternel nous a délivrés. Mais voilà ce qu'il promet. Jésus, il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je vais vous délivrer. Voilà. Et cette délivrance, il a accablé la puissance de l'ennemi. Parce qu'avant d'être délivré, nous sommes sous cette puissance de cet ennemi. Alors dans Romains, il nous est dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux. Mais savez-vous que notre maître, avant de connaître Jésus-Christ, il est tout aussi puissant. Voilà pourquoi il désire nous garder là. Voilà pourquoi il désire nous garder. La puissance, Satan est puissant. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Contre des puissances. Et qui peut nous délivrer de ces puissances? Il n'y a que Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La puissance de Satan est reconnue. Lorsqu'il est parlé de Satan, vous savez, dans le grec, il y a deux mots pour parler de puissance. Mais lorsqu'il est parlé de la puissance de Satan, c'est le mot que vous connaissez tous, hein, c'est dynamis, duquel il vient le nom que vous connaissez encore, la dynamite. Ça, c'est montrer la puissance. Lorsqu'il est parlé de Satan, il a cette puissance, la dynamique de nous garder auprès de lui. Mais lorsqu'il est parlé de la puissance de Dieu, c'est le mot grec « exousia ». C'est la plus que puissance. C'est la toute puissance. J'aime bien toujours de dire « Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il peut. » Lorsqu'il intervient, il fait ce qu'il peut. Il ne fait pas tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que des fois, Dieu, il n'intervient pas. J'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ces frères, ces sœurs, il y a eu cette église qui s'est effondrée? Dieu, il est tellement puissant, il n'aurait pas pu intervenir. Il a fait ce qu'il pouvait, pas ce qu'il fait. Voilà, Dieu, c'est celui qui dirige toutes choses. Aujourd'hui, le monde, il donne la faute à Dieu pour toutes choses. Si on est dans le péché, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui as permis le péché. Non, Dieu, il ne nous a pas créés au commencement avec le péché. Ils étaient innocents. Ce n'est pas Dieu qui a créé le péché, façon de parler, créé. Mais c'est l'homme qui a désobéi à Dieu. Et ici, il nous est dit, « Je vous délivrerai de leur servitude. » Dieu, il est intervenu avec son exousia, la toute-puissance, l'omnipotence de Dieu, et à travers Jésus-Christ, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il nous a dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. transportés. Nous étions morts, nous sommes vivants. Nous étions dans les ténèbres et nous nous trouvons dans la lumière. Voilà, il nous a délivrés. C'est ça que Dieu il a fait dans notre vie. C'est ça que Dieu il a fait avec le peuple d'Israël. Il les a délivrés. Et ce n'est pas la puissance de Pharaon qui lui a empêché. Non, car lorsque Dieu il veut agir, il agit. Et il n'y a rien qui le retient. Rien. Voilà pourquoi, je lui dis, le peuple d'Israël, s'il est sorti d'Égypte, c'est grâce à Dieu. Et aujourd'hui, dans ce monde, si vous vous sortez, si vous allez vous délivrer de cette puissance du péché, c'est grâce à Jésus-Christ. Il y a une autre promesse qu'il a faite. Il dit, « Je vous sauverai à bras tendus et par de grands jugements. » Je vous sauverai à bras tendus et par des grands jugements. Oui. Lorsque Dieu il intervient en grâce, mais il amène aussi des jugements. Avec Israël, il a fait comme ça. Pour anéantir cette puissance du Pharaon, il est intervenu par des jugements. Mais tout de suite après, il est intervenu par la grâce. Parce qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Hein? Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est venu. Jésus-Christ, il est devenu malédiction. Pour faire quoi? Pour que nous puissions devenir bénédiction. Le jugement, il est tombé sur lui. Et ce jugement en tombant sur lui, nous avons reçu le salut. C'est ça que le Seigneur il a fait. Le jugement avant la grâce. Vous savez, lorsqu'il va y avoir le retour de Jésus-Christ, il va venir ici. Il ne va pas venir pour sauver, hein, il va venir pour juger. Il va venir pour juger. Il va y avoir le jugement des nations. Et tout de suite après, il va y avoir l'entrée dans le royaume, la grâce de Dieu. Mais d'abord, le jugement sur tous ceux qui veulent garder et qui ne veulent pas garder la volonté de Dieu. C'est ça. Nous devons avoir toujours cette chose. D'ailleurs, avant de nous tourner vers Jésus-Christ, le jugement, il faut que nous le prenions sur nous-mêmes. Il faut se reconnaître coupable. Et il faut se repentir de toute notre vie passée, reconnaître notre péché. Ça, c'est un jugement. Oui, Seigneur, je me condamne. Je suis pécheur, je mérite l'enfer, je mérite ton châtiment, je mérite ta colère. Et je me tourne vers toi pour que tu puisses intervenir et me sauver. Car c'est toi et toi seulement qui es le Seigneur, le Sauveur. Une fois qu'on a fait ce pas, une fois qu'on a fait ce jugement, il fait quoi, Dieu ? Dieu, il intervient en grâce. Il nous a dit qu'après la mort vient le jugement. Mais si nous nous sommes jugés lorsque nous sommes vivants, si nous reconnaissons notre péché, si nous demandons pardon, il n'y a plus de jugement. Mais il n'y a que la grâce. Et le peuple d'Israël en Égypte, il a fait que ça. Oui, Seigneur, on a péché, tu nous as envoyés en captivité, tu nous as rendus esclaves. Viens, délivre-nous. Il est intervenu un jugement pour ceux qui les retenaient captifs, et ensuite il leur a fait grâce, et ils sont sortis. Et tout ça, grâce à Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos péchés. Sommes-nous conscients que sur cette croix, c'était pas la place à Jésus-Christ là. Hein? C'était pas Jésus qui devait être là, mais c'était moi, c'était vous, c'était vous. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'a rien fait. C'est le seul homme qui a pu dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Je peux vous poser la même question à vous. Qui de vous me convaincra de péché? Je suis sûr que tout le monde il va se lever. Et il va me dire, oui, tu as fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Mais Jésus, personne ne s'est levé. Moi, je méritais ça. Mais Jésus, il est monté à ma place. Jésus, il est mort à ma place. Il a pris sur lui cette malédiction que je méritais. Le salaire du péché, c'est la mort. Je devais mourir là. Mais ce n'est pas moi qui est mort, c'est Jésus qui est mort. Voilà ce que Jésus il a fait. Hein? Je vous sauverai à bras tendus par sa toute puissance et par des grands jugements. Les jugements et ensuite la grâce. Est-ce que vous vous êtes jugé? Sachez qu'après les jugements vient la grâce. Ne tardez pas. Hier, dans les championnats d'Italie de football, un joueur, 24 ans, vous savez que les joueurs, ils sont en pleine santé, hein? Ils courent, il y a des matchs et tout. Pendant le match, il s'est couché, crise cardiaque. 24 ans. Il est jeune, hein? Plein de santé, en pleine santé. Il est mort. Beaucoup ils disent aujourd'hui, « Ah, j'ai tout mon temps. » Tu as tout ton temps. Mais le temps, c'est Dieu qui te le donne. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Tu ne sais pas quand c'est que ta vie va s'arrêter. C'est ce qui compte, c'est « Es-tu prêt à le rencontrer ?» Amos nous le dit, « Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu ?» Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser. Hein. S'il arrive quelque chose, suis-je prêt à rencontrer Dieu? Ou j'aurai honte? 24 ans. Vous allez entendre parler, les championnats d'Italie, il a été interrompu. Hein. Normalement, il y a des matchs, les samedis et les dimanches. Aucun match. 24 ans. En pleine santé. Pendant une action de jeu, personne ne l'a touché. Pouf. Décédé. Était-il prêt à rencontrer son Dieu? Eh oui. Jacques nous dit que notre vie, c'est comme un nuage. Un coup de vent, c'est terminé. Il lui a posé la question, les Juifs à Jésus, pour la tour de Siloé. Est-ce qu'ils étaient plus coupables, ceux-là? Il a dit, non, ce n'est pas une question de culpabilité. Il a dit, eux, ils sont morts. Vous, vous êtes vivants. Préparez-vous. Il n'y a pas ces 30, 40, 50 ans qu'on vit ici. Ah, je vais voir. Non, il faut regarder l'éternité. Ces 50 ans qu'on vit ici, c'est rien du tout par rapport à l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, je vous sauverai à bras tendus. S'il y a eu ces jugements, nous sommes-nous jugés pour recevoir cette grâce? Et l'autre promesse qu'il le dit, il dit, au verset 7, il dit, « Je vous prendrai pour mon peuple. » Je vous prendrai pour mon peuple. Si on est passé par ces jugements et si on a cette grâce, « Je vous prendrai pour mon peuple. » On est quoi, nous, en tant que chrétiens? On est l'Église, on est le peuple céleste de Dieu. « Je vous prendrai pour mon peuple. » Ici, il parle de l'adoption divine. Nous étions enfants du diable et nous allons devenir enfants de Dieu. C'est l'adoption. Dieu, il nous adopte. Malgré tous nos manquements, malgré notre caractère détestable, Dieu, il nous adopte. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. C'est l'adoption divine, cela. Et voilà pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 6, nous dit, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Je dois vivre ma vie. » Non, tu ne dois pas vivre ta vie. Il faut que tu vis la vie de Jésus-Christ en toi, car tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu, tu es le peuple céleste de Dieu. Et le peuple d'Israël, je le dis, mais vous, vous appartenez au peuple juif, vous êtes le peuple terrestre de Dieu. Il vous a pris en tant que peuple. Mais à un certain moment, vous êtes bien aperçu que Dieu, il vous a laissé tomber. Pourquoi? Parce que vous avez refusé le salut qu'il vous a apporté. Et ce salut, c'est en Jésus-Christ. Malgré vous ne voulez pas le reconnaître. Je dis, ce serviteur souffrant que vous regardez très souvent dans Ésaïe 53, ce n'est pas le peuple d'Israël, mais c'est son fils Jésus-Christ. C'est lui qui a souffert pour vos péchés, pour nos péchés. Et il nous a délivrés. Voilà pourquoi il a dit, je vous prendrai pour mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple céleste, l'Église. Et un jour, le Seigneur il va venir prendre son Église. Ce n'est pas un homme qui a fondé l'Église. C'est Dieu lui-même. Il dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer, ils ne prévaudront pas sur elles. Pourquoi? Parce que nous avons cette assurance que Jésus-Christ est notre chef. Et si Jésus est notre chef, nous n'avons rien à craindre. C'est ça l'adoption. Hein? Et c'est là que le Seigneur il nous dit, tu n'appartiens plus au monde. Voilà pourquoi le Seigneur il nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas nous comporter comme le monde. Mais beaucoup, on se dit, beaucoup de chrétiens, ils disent, ah, je suis puissant, je peux vivre dans le monde sans tomber dans les péchés. C'est faux, ça. C'est faux. Des grands évangélistes, ils ont cru dans leur propre force. Ils ont fréquenté des endroits où ils ne devraient pas être. Et ils sont tombés. Parce qu'ils comptaient plus sur leur propre force et pas sur celle de Dieu. Voilà pourquoi nous devons dire oui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Si seulement notre foi avance avec Dieu. Restez ici, il a dit aux disciples, et vous recevrez la puissance de Dieu. Pas la puissance du monde. Mais la puissance de Dieu, c'est celle qui nous fait bouger. Vous savez, des fois, pour ceux qui vont à Paris, qui travaillent à Paris, hein, des fois on voit tous ces gens dans les métros surtout. Hein, surtout les matins. Hein. Ça m'est arrivé à un certain moment, lorsque je travaillais, de prendre le train à 4 heures. Vous voyez les gens, vous me direz, ils viennent de s'élever. Hein, mais hein, ils ont une tête. Et là, tu es là, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? En tant que peuple de Dieu, nous devons leur parler. Rassurez-vous, je ne l'ai jamais fait. Hein. Mais je m'imagine toujours un homme comme Paul. Paul, il se serait levé. J'ai vu des chrétiens qui n'ont peur de rien et de personne. Dans le RER, ils sont là, qu'ils te prêchent la parole de Dieu, qu'ils lisent la Bible, qu'ils ont des pancartes. Hein, avec Dieu t'aime et d'autres versets bibliques, ils n'ont aucune honte. Hein. Mais nous, est-ce que nous le ferions? Est-ce que nous le faisons? De dire, je ne suis pas comme vous. Ce n'est pas quelque chose de dire, oui, mais toi, tu... Non, non, c'est dire la vérité. Je ne suis pas comme ceux qui sont dans le monde. Je suis un enfant de Dieu. Un racheté, un fils de Dieu. Et je dois me comporter en tant que fils de Dieu. Si seulement nous faisions cela, nous prenions conscience de ce que Dieu il nous a fait devenir, les choses changeraient. Ils changeraient. Est-ce que nos voisins, est-ce qu'ils savent que nous sommes des chrétiens? Ceux qui vivent tout autour de nous, est-ce que leur avons dit que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur? Ou faisons-nous les choses en cachette? Comme cette famille qui a envoyé leur fille en Amérique hein, pour passer dans une famille un certain temps, Il a dit, tu fais attention, ma fille. Hein? Lorsqu'il est rentré, elle a dit, alors, comment ça se passe? Il a dit, rassure-toi, maman. Personne n'a su que j'étais chrétienne. Voilà. Et vous savez, encore une fois, je vous l'ai dit, si nous avons été sauvés, c'est pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Mais le faisons-nous. Le faisons-nous. Et ensuite, le Seigneur, il dit, je serai votre Dieu. Je serai votre Dieu. L'assurance que Dieu donne à ce qui lui appartient. Je suis ton Dieu. On l'a lu tout à l'heure dans les psaumes 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel me donne tout à moi. Après, chacun de vous, il doit dire à moi, à moi, à moi. Mais c'est personnel. Lorsque nous nous tournons vers la croix, c'est chacun de nous. C'est à chacun de nous d'y aller. Et en faisant cela, il est notre Dieu. D'ailleurs, lorsqu'il nous arrive quelque chose, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Oh mon Dieu. Hein, c'est vrai, hein, on dit ça. Même les païens, ils disent ça. Hein. Oh mon Dieu. C'est là que le commandement qui dit, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. C'est là qu'on dit, je ne suis pas ton Dieu. Ton Dieu, c'est Satan. Ton Dieu, c'est le diable. Car si on n'a pas Jésus-Christ dans notre cœur, notre Dieu, c'est le diable. Croyez-vous où est-ce qu'il est le diable maintenant? Croyez-vous que le diable, il est dehors? Pas besoin dehors. Hein? Le diable, il est là parmi nous. Peut-être il est en train de vous dire, oh, il prêche longtemps, le pasteur. Hein? Sinon, vous-même, vous dites, oh, mais qu'est-ce qu'il attend là? J'ai des invités à la maison là. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais aller au cinéma. Ça, c'est Satan. C'est le diable qui nous met ces choses-là dans notre esprit. Il est là, il est dans les églises, il est parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils l'ont laissé tomber. Et alors, sur qui il s'acharne? Mais sur ceux qui l'ont laissé tomber. Pas dans le monde. Il n'a pas besoin dans le monde. Dans le monde, ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas besoin du diable de dire, tiens, fais ça, fais ça, fais ça. Ils le font automatiquement. Automatiquement. Parce qu'ils sont asservis, parce qu'ils sont esclaves, parce que les diables, c'est leur Dieu. Votre père, le diable, il est menteur depuis le commencement. Et Dieu, il dit, je serai votre Dieu. Une autre promesse, il nous est dit au verset 8, il nous dit, je vous ferai entrer dans le pays. Je vous ferai entrer dans le pays. Je dis, vous en tant que peuple d'Israël, est-ce que vous êtes rentré dans le pays parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire? Vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Sauf que Dieu, il vous a promis qu'il vous ferait rentrer dans votre pays. Et l'accomplissement, il s'est réalisé. Nous, en tant que chrétiens qui avons Jésus-Christ, il nous dit, je vous ferai entrer dans le pays. Quel est notre pays? Ce n'est pas ici, sur cette terre, notre pays. Notre pays, c'est là-haut. Notre pays, c'est là-haut. C'est là notre maison. C'est ce que j'ai dit toujours, hein, l'extraterrestre était. Il pointait les doigts là-haut, il disait, maison, maison. Il avait envie de rentrer dans la maison. C'est là notre pays. C'est là que nous y passerons l'éternité. Voilà pourquoi c'est une promesse. Je vous ferai entrer dans le pays. Ne vous attristez pas. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque la place elle sera prête, je vous amènerai avec moi. Je viendrai et je vous prendrai avec moi. C'est ça que le Seigneur il nous promet. Hein? Et il nous a dit dans les Proverbes 3, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Pas confie-toi à l'Éternel de ton cœur, non, mais de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est-à-dire que dans notre cœur, il ne doit pas y avoir des portes dans lesquelles le Seigneur il ne rentre pas. Dans notre cœur, il ne doit pas y avoir des péchés. Il faut que nous soyons purifiés entièrement de tout ton cœur. Elle dit, oui, mais je l'aime, le Seigneur, de tout cœur, de tout mon cœur. Oui, mais est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Il n'y a pas quelque autre chose qui prend la place du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et c'est une promesse d'une direction continuelle. Je vous ferai entrer dans les... Et cette promesse, elle est là. Et nous l'attendons, cette promesse. La venue de Jésus-Christ. Nous rentrerons au pays. Moi, je suis italien, parce que je suis ici, sur terre. Mais ma nationalité est céleste. Ma maison est là-haut. Et je n'ai pas besoin de papiers pour aller là-haut. J'ai le cœur, appartient à Jésus-Christ. Un jour, je me suis jugé et Jésus m'a donné sa grâce. Voilà ce qu'il a fait. Et ensuite, pour terminer, il nous dit, je vous le donnerai en possession. Une promesse d'une grande possession. Oui, le ciel nous appartient. Parce que nous aurons un héritage. Ce qu'il a Jésus aujourd'hui. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Ça, c'est une belle promesse. Nous n'avons rien ici sur cette terre, mais nous avons un héritage que personne ne peut toucher. C'est marqué, il nous l'a dit, où le voleur l'atteigne, ne le consume pas. Parce qu'il est au ciel. Voilà ce que le Seigneur il nous dit. Nous sommes des pèlerins ici-bas, sur cette terre. Et qui dit pèlerin, c'est qu'il a un endroit où il doit aller, n'est-ce pas? Et ça, c'est le paradis. Notre voyage, il sera terminé lorsque nous serons au paradis. Nous sommes des pèlerins, mais notre Dieu, il est avec nous. Le Seigneur ne nous dit pas, oui, qu'est-ce que tu as, mon fils, ma fille? Tu es malade, tu as des besoins, je vais te donner tout ça, je t'enlève tout ça. Jamais le Seigneur nous a dit ça. Mais le Seigneur, il nous dit, tu es dans la souffrance, je suis avec toi. Tu as un besoin, je suis avec toi. Je pourvois. Voilà ce que le Seigneur, il nous dit. On a un cantique, il dit, non, jamais tout seul. Peut-être on n'a plus personne tout autour de nous. On rentre à la maison. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul, on a le Seigneur. On a le Seigneur Jésus. Non, jamais tout seul. Parce que Jésus, il nous l'a promis. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Avons-nous cette assurance au plus fort fond de nous-mêmes? Jésus, avant de monter aux cieux, il a dit, tout est accompli. Avant de mourir, pas de monter aux cieux. Il n'y a plus rien à faire. Il a trois choses il a fait. Par la mort de Jésus, les pécheurs croyants, ils ont reçu leur pardon. Ils ont été délivrés par la mort de Jésus. Par le sang de Jésus, les pécheurs, ils sont justifiés. Ceux qui ils se sont laissés purifier, lavés par le sang de Jésus-Christ, ils sont justifiés. Ils ne sont pas justes, mais ils sont déclarés justes. Ils sont déclarés justes. Pourquoi? Parce que Jésus, il a versé son sang. Parce que Jésus, il nous a purifiés. Et aussi, par la résurrection de Jésus, oui, nous savons que par cette résurrection, comme lui, il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Voilà ce que le Seigneur, il nous promet. C'est lui le libérateur. C'est lui le sauveur. C'est lui l'envoyé de Dieu. Et il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus-Christ. Et ce chemin, c'est pour tous. Juifs, Italiens, Français, pour toutes les nationalités. Il n'y a pas d'autre chemin. Je lui ai dit, pourquoi croyez-vous qu'en Israël, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus rien? Parce qu'il y a Jésus. Parce qu'il y a Jésus. Je ne sais pas s'il a été convaincu. Hein. Il m'a dit au revoir. Mais au moins, je lui ai montré que dans l'Ancien Testament, de la même façon que Dieu il agit envers les peuples d'Israël, il agit de la même façon aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à apprendre cette parole. Car la parole, il nous le dit, elle est la vérité. Et c'est cette parole-là que nous devons prêcher aux gens. Pas ma propre façon de penser. C'est la parole de Dieu, car elle est la vérité, elle est le chemin. Et le monde a besoin de cela. Car sans Jésus, le monde est perdu. On peut faire toutes les œuvres qu'on veut, mais si on n'a pas Jésus dans notre cœur, nous sommes perdus. Avez-vous Jésus dans votre cœur ce matin? Si vous ne l'avez pas encore, passez par ces jugements et mettez-vous le cœur en paix avec Dieu. Car si vous n'avez pas Jésus, vous êtes en lutte avec Dieu. Et un jour, si vous ne le faites pas, la colère de Dieu, il va s'abattre sur vous. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Parce que Dieu, il aime tous. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque. Mais si on refuse ce salut que Dieu donne, alors c'est la perdition éternelle. Alors la colère de Dieu demeure sur lui. À chacun de nous de réfléchir et que chacun de nous puisse prendre les bonnes décisions. Car le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, il a laissé une promesse. Il a dit, je m'en vais, mais je vais revenir bientôt. Que chacun de nous soit prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tes enseignements. Nous te prions de diriger nos cœurs, Seigneur, vers toi, et pas vers un homme. Que nos cœurs, Seigneur, ils se donnent entièrement à toi. Et utilise-nous, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que les temps sont mauvais. Aide-nous, Seigneur, à racheter notre ancienne vie. Aide-nous, Seigneur, à être des instruments entre ta maître, à être des dispensateurs, Seigneur. Et que nos vies soient entièrement entre ta main. Montre-nous, Seigneur, les vraies priorités. Et nous savons, Seigneur, que la plus grande des priorités, c'est celle de t'avoir en tant que Seigneur et Sauveur. Et celle de manifester, de faire connaître aux gens la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous nous mettons entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous, dirige-nous. Enlève tout ce qui ne t'appartient pas de notre cœur. Ça peut faire mal, Seigneur, mais nous savons que lorsque tu agis, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi nous voulons te remercier, Seigneur. Mais nous te prions vraiment d'intervenir, d'arracher et de rebâtir notre vie afin qu'il soit pour toi une vie agréable, afin que nous puissions accomplir en toutes choses ta sainte volonté. C'est dans le nom béni et précieux de Jésus que nous t'avons prié et remercié. Amen. Hugues, tu as un